pour nous quand même, on suit le même système, accumulation, mais on a déjà commencé à faire aussi des analyses. C'est mm-hmm. clair qu'il y a d'informations, les photos et tout ça, qui ne servent pas à les analyses, mais toutes les autres, si. So, il a été créé pour faire des analyses. On a fait quelque chose sur l'espace, sur les rues, mais maintenant on va commencer aussi avec les techniques constructives ou pour les dimensions. Donc je pense qu'une chose n'élimine pas l'autre.
Ah oui, bien sûr.
Il y a cette dimension de médiation entre les différents acteurs de l'urbain. C'est ce qu'on disait aussi hier, c'est finalement que d'avoir préalablement déjà eu une réflexion historique, plus ou moins étendue, un bilan, une synthèse sur la ville, permet aussi de mieux conduire le CIV.
Et de savoir où on va et pas
exactement. Et par exemple, que ça aille dans l'adaptation du thésaurus, on regarde la ville, ce que tu évoquais tout à l'heure, que ça aille dans les différentes entrées que tu vas choisir au sein de ton CIV, il est évident que d'avoir fait préalablement un bilan va aider à orienter ça. Me semble-t-il, et du coup à générer une analyse ensuite.
Et à Aix, le CIG, donc là nous on est en train de monter le CIG, au départ on l'appelait CIG des sites archéologiques, mais en fait finalement ça correspond pas du tout à ce qu'on voulait. On transforme, on est descendu à un site d'entité archéologique, mm-hmm. ce qui fait qu'on a appris, donc on a pris pour exemple la cale archéologique de Aix, et on a éclaté toutes les notices. Puisque dans la carte archéo, une notice correspond plus ou moins, on va dire, à une entité archéologique. Une partie du cardo 1 a été découverte en 1973, une partie du même cardo 2 mètres plus loin a été découverte en 1984, enfin bref. Donc on a éclaté tout ça dans une grille Excel pour redonner une entité archéologique la plus minimale, la plus petite possible, derrière laquelle on a attaché un certain nombre d'informations, donc occupation, chronologie. Alors parfois des entités vont se rassembler, donc voilà, pour des cardos, des parties de cardos qui ont été découvertes, on va rassembler toutes ces notices, mais avec quand même une notion de découverte différente en fait. On conserve quand même derrière la source voilà. Donc c'est le même objet mais qui a été découvert à différents endroits. Mais on garde quand même cet objet cardo.
Bah, ça, justement, ce que je voulais poser là, c'était là où la question que je voulais poser juste après, c'était effectivement comment enregistrer ces données justement pour un cardo ou une voie. Effectivement, elle va être découverte à plusieurs endroits. Alors que c'est la même, effectivement, comment on l'enregistre. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi, du coup, à enregistrer à des restitutions de, on a un bout de voilà, un bout de voilà. Est-ce qu'on va quand même spatialiser la voie.
Le pointillé.
Le pointillé ou pas, justement, dans ce cadre de... si on fait des travaux là, on risque d'avoir cette voie.
Mais là,
forcément,
on change,
si on regarde...
On change de niveau. On change de niveau d'analyse. Donc, à un moment donné, il y a bien une transformation d'objet.
Oui.
C'est plus la même entité. Il y a l'entité cardo générale et puis il y a l'entité cardo découverte.
Mais même là, déjà, le fait de raisonner en entité archéologique, de la définir, de lui donner une description pour qu'il y ait une normalisation, c'est bien déjà, on passe à un autre stade qui est celui de l'enregistrement.
Oui, oui.
C'est-à-dire,
oui.
J'enregistre, j'additionne tout ce qu'on peut voir. Et là, à un moment donné, il faut que je fasse un tri, il faut que j'opère une normalisation, une standardisation, donc je fais un choix. Et c'est là où après les questions apparaissent, puisque par ce choix, on va imposer des contraintes et qu'on va se rendre compte qu'effectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Et donc là, on est bien dans la définition d'un objet, quel qu'il soit. Même si ce n'est pas un objet d'analyse, parce que c'est le terme qu'on utilise, c'est quand même un objet qu'on va manipuler à des finalités. Donc en amont, pourquoi on définit. Et puis après, quand on va définir le cadre de cette entité, cette standardisation, on va se rendre compte qu'on ne va pas tout pouvoir mettre. Et c'est là qu'on va être imposé les choix.
L'idée aussi, c'est qu'à partir du moment où on va construire ça, de nouveaux objets vont se créer. C'est-à-dire par rapport aux cardos, si on va créer une requête sur les cardos, qui vont nous donner des alignements, et par rapport à cet alignement, un nouvel objet va être créé en fait. On va créer au fur et à mesure qu'on va faire le SIG, on va essayer de créer des objets qui vont se matérialiser, qu'on n'aurait pas matérialisé autrement avant en fait.
Donc, et cette filiation, parce que là on est bien dans un processus scientifique qui à un moment donné, je suis partie d'un enregistrement, et puis après j'observe autre chose, et puis là je me dis, effectivement, je pars de l'hypothèse que ça va ensemble, ça va former un nouvel objet, et ça. est-ce qu'à un moment donné, c'est pris en compte ? Parce qu'il faut pouvoir avoir une boucle de rétroaction pour revenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah oui, à telle date, j'ai eu cette hypothèse, parce que voilà. Et puis, bah, une nouvelle découverte, il faut dire que... Et donc ça, est-ce que c'est pris en compte ? Est-ce qu'il y a un moyen de reformuler, de déconstruire l'hypothèse qu'on a faite et pouvoir la...
Dans la mesure où on fait pas... Enfin, on n'inscrit rien en dur, tout est... Tout est modifiable à volonté en fait dans nos entités. À partir du moment où on assemble des entités, au bout d'un moment, bah, on peut en enlever une pour, enfin voilà, pour conserver l'idée qu'on avait de cette entité créée ou en rajouter d'autres. Dans nos fiches d'entité, j'ai créé à l'intérieur de, enfin j'ai ma fiche d'entité et par rapport à cette entité là, je peux en accrocher ou en enlever, voilà, à volonté en fait. Donc ça sera suivant les découvertes et mais oui, enfin, c'est modifiable à tout moment en fait. Dans la mesure où nous, on va s'attacher, c'est surtout à créer une entité la plus petite. Après, l'assemblage de toutes ces entités est totalement, modifiable à volonté. Quoi. Donc, je sais pas si j'ai répondu.
C'est des constructions ad hoc en fait.
C'est ça, voilà.
Au fur et à mesure, si besoin, on construit. Voilà. Et
bon, nous, c'est rassembler le maximum de la plus petite information possible avec le maximum de propriétés et d'attributs liés. Et après, je ferai en SIG, en analyse, je créerai d'autres objets, des îlots, des. Voilà. Mais au fur et à mesure où je rentrerai les petites entités. Il n'y a que par ces petites entités que j'arriverai à créer mon système en fait.
And in your attributes, do you also say what type of information it is?
Tous les types.
I mean, for example, the material information from historical information or circumstantial information.
Oui. Ouais. Alors, dans les matériaux, oui. Enfin, mais oui, on a même on a même des. Par exemple, si on a un bout de cardo, on a toutes les. En fait, je vais attacher toutes les publications. Les références bibliographiques, par exemple, de cette découverte, j'ai également tous les informations. Si c'est sur une parcelle, j'ai les informations de la parcelle. Donc là, c'est attaché à la base générale de la ville où j'ai les informations du propriétaire actuel. Pour des questions aujourd'hui, nous, si on trouve des artefacts, donc ça appartient au propriétaire actuel, il en a la propriété. Donc il faut qu'on attache le maximum de données. Donc oui, derrière un objet, les attributs peuvent être nombreux. Et aujourd'hui, on a une fiche de.
So someone can retrieve what caused someone to record a parcel? What type of information caused someone to record a parcel?
J'ai pas compris.
Quel type d'information rattachée au.
Well, no,
la fonte, se uno può arrivare alla fonte, can you repeat it?
How do we know why someone interpreted or recorded something as a parcel?
Comment est-ce qu'on fait à savoir, comment est-ce qu'on sait quelle information on a obtenue, quelle sorte d'information nous a donné l'information que ça s'est rattaché à cette parcelle? C'était un fond écrit, c'était un fond archéologique.
C'est les métadonnées dont on parlait, dont on parlait hier.
C'est pas moi qui les gère, ça. C'est, enfin, ou après, si c'est. Enfin, non, mais si c'est quelque chose que je crée, voilà, si c'est de la parcelle actuelle, ça appartient à la DGFiP, à ce moment-là, c'est des informations qui sont actuelles. Enfin, genre, ça, c'est pas mon domaine, je reprends des objets. Qui ont déjà leurs propres attributs aussi, donc
c'était peut-être par rapport à la traçabilité de
moi
par exemple quand
oui mais c'est textuel quoi, enfin, oui.
Quand je dessine une voie où j'ai de la géophysique, j'ai de la photo aérienne, donc j'ai des bouts, quand je fais la voie ou je crée la voie dedans, j'ai un attribut dans lequel je mets les sources qui ont été utilisées,
oui tout à fait, oui.
Et c'est pour ça que cette traçabilité est très importante. On en parlait déjà.
dans un certain sens, il y a un certain nombre de remarques qui font aussi penser quelque chose qui était très présent, c'était les échelles différentes qui sont utilisées. Alors ça va
qui sont manipulées.
Entre ce qu'on observe sur le terrain, les éléments qu'on enregistre à l'échelle de la fouille, à l'échelle du quartier, on a parlé de ça, à l'échelle de la ville, et alors quand on veut comparer des villes, et on peut faire le grand écart entre des SIG de sites et puis de l'analyse spatiale qui n'est pas fondée sur SIG, mais par exemple la chronochorématique qui a cette vocation de comparer, et là on n'est plus du tout sur les mêmes échelles, donc les mêmes objets, et il y a ces passages-là. Alors, on a comment on définit les choses, il y a d'un point de vue spatial, il y a d'un point de vue fonctionnel, et puis il y a aussi d'un point de vue temporel. Et alors je ne voudrais pas trop faire mon maniaque avec le temps, mais ça m'intéresse beaucoup pour les définitions. Tout à l'heure moi je disais que les objets historiques c'était mis à l'année. Je sais que c'est pas ce qui est utilisé par tous. Peut-être on peut essayer de discuter un peu de ces questions-là.
Oui, mais au-delà, c'est ça, c'est que nous, on a essayé de mener une réflexion du changement d'échelle. Ça, et puis il y a le
grand tableau. Là.
Le grand réclame un café préalable.
Mais les canines, ça.
Oui, si, parce que l'information, si on se place en tant qu'archéologue, hein, l'information initiale, ça va être un fait, une US.
Oui, c'est ça.
Qui est, qu'est-ce qu'on enregistre et comment on transforme pour passer en fait. Et après, on va intégrer d'autres choses qui, elles, vont renseigner à une autre échelle. Donc après, il y a la confrontation de ces échelles. En même temps, je pense que ce n'est pas judicieux de confronter des objets qui sont issus de sources qui elles-mêmes relèvent d'échelles différentes. Ça, je pense que, à mon sens, c'est. Donc, comment on passe, c'est vraiment. Il y a bien cette notion d'uniformisation pour pouvoir comparer des objets. Donc, j'ai une information qui relève de l'unité stratigraphique et après, par exemple, je veux étudier, comparer des bâtiments, des maisons. Et donc là, il faut bien faire de l'agrégation, faire subir aux informations de la transformation de connaissances. Donc il y a une transformation dans les informations, forcément. Est-ce qu'on parle de. On va passer par une occupation à une description qui va être, dire, logis, habitat, ou donc là. Et après, dans le temps, on passe d'une chronologie relative, on est sur de la stratigraphie, à une datation, au prix de la datation. Parce que comme on change d'échelle, on peut se dire qu'on peut avoir, si on passe directement à l'échelle de la ville, on peut dire qu'on peut avoir une datation qui sera peut-être moins fine quand on veut comparer des maisons entre elles. Et à l'inverse, pour l'espace, à un moment donné, il y a ce qu'on appelait de l'assemblage de relevés, pour apprendre donner à avoir une emprise de bâtiment ou la restitution d'une ruche, par exemple. Mais quels sont les mécanismes derrière à mettre en œuvre? Bon, il y a les mécanismes de réflexion, les mécanismes d'enregistrement, parce que, par exemple, dans l'espace, à un moment donné, on s'est dit, on n'est pas que dans la simple agrégation ou de la généralisation. Et donc, derrière, ça, j'ai bien aimé aussi le schéma hier sur Nantes, sur le curseur des SIG, parce que là, on est bien finalement dans le curseur. C'est que aussi, si on enregistre, donc on enregistre souvent nos sources, et nos sources, elles relèvent d'une échelle, mais après, on veut pouvoir les comparer. Donc, on va être obligé de dégrader ou pas, ou de simplifier des sources d'une autre pour pouvoir les rendre comparables. Et ce mécanisme-là, est-ce que ça a été pris en compte dans vos démarches? Et comment vous l'enregistrez, comment vous opérez? Vous allez prendre un café.
Nelly est partie gentiment nous préparer du café. On va avoir du café ici.
Moi, je veux bien faire juste une toute petite remarque qui va peut-être pas
faire avancer
beaucoup le débat, mais je voulais simplement rappeler que en fait, ces questions-là, elles ne sont pas du tout propres à l'urbain, au milieu urbain. Et que moi, je me suis exactement posé ces mêmes questions dans un tout autre milieu. Où ça se pose de manière peut-être encore plus. plus prégnant, parce que à la rigueur, à l'échelle de la ville, on peut espérer avoir des informations d'entrée de jeu qui vont concerner à peu près la même échelle. En rural, on a vraiment on va avoir un four de potier ici, un espèce de boudin là, après un parcellaire, le grand écart est encore 10 fois pire. Et c'est vrai que moi j'ai essayé d'avoir ce type de réflexion dans le cadre de ma thèse, où j'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et je ne suis pas allée au bout de cette réflexion, mais ce que je vois, la système hiérarchique, moi j'étais partie sur cette idée-là de hiérarchiser, déjà de hiérarchiser les sources que j'avais en fonction de l'échelle à laquelle j'allais pouvoir utiliser les données que me donnaient ces sources. Voilà, c'était un premier pas où j'avais commencé une hiérarchie tout simplement de... Voilà.
C'est comme ça qu'on nous apprend à faire les choses.
J'entends parler du rural, mais nous on a essayé de faire le travail avec Elisabeth.
Ah oui.
Parce qu'il y a d'autres concepts qui apparaissent dans le rural et qu'on peut pas, et qui ne sont pas directement dans l'urbain. Dans le rural, Elisabeth, elle parlait de tâches qui relève une notion en écologie, parce qu'on a de la donnée diffuse. Voilà. Et ce qui fait que ça ne peut pas complètement se décrire de cette manière-là, mais après, effectivement,
le principe est exactement le même.
On ne peut pas le formaliser, mais beaucoup plus. Donc, pour revenir à l'urbain, nous, on est arrivé à ce questionnement-là, parce qu'effectivement, un certain nombre de questions ou de problèmes auxquels on était confrontés, c'est on s'est dit, mais à un moment donné, effectivement, on ne peut pas croiser telle information avec une autre. Parce que tout simplement, on n'est pas sur les mêmes échelles.
Depends on your question, though. It fully depends on the question you want to ask.
Yes, but nous avons des sources. Ce sont nos données au départ, et qu'à un moment donné, cette donnée, il faut qu'on la transforme effectivement. Alors ça dépend. Parce que selon les questions, on va être à un niveau ou à un autre. On est d'accord. Mais la donnée au départ, elle va être soit à un niveau supra. Ou infra. Donc comment on la dégrade, comment on la rend, enfin, c'est toutes ces questions-là.
Dans la même question.
Oui.
Et pourquoi vous voulez faire ça?
Pour pouvoir comparer les choses. Il faut bien qu'il y ait les mêmes définitions, les mêmes classes d'informations sur les mêmes choses. Sinon, on ne peut pas faire de traitement. On sait que ça, par exemple, pour la datation, on sait que c'est règne d'Auguste. Ça, on sait que c'est 380. Et l'autre, on sait que c'est début 11e. Comment on traite, comment on compare des choses avec des définitions très, très hétérogènes? Il faut trouver un moyen commun de décrire les choses.
That depends on your question. If you ask a question, you know what the basic bit of information is that you need.
Non, mais ça dépend des questions, mais nos sources sont toujours les mêmes. La donnée initiale.
So certain questions you can't ask of certain sources. Non, il y a des questions que nous ne pouvons pas demander de.
Non, mais ça, on est d'accord.
Et puis on ne le fait pas. Enfin, je crois qu'on est assez sérieux pour pas.
Pour pousser les sources.
Après, moi, ça, pour mon master, j'ai mis en place, commencé à mettre en place un site sur un site de façon diachronique. Enfin, c'était. Aujourd'hui, c'est un village, mais c'était une ville, une capitale antique, puis un petit village médiéval. Et pour justement ces questions de temps, j'avais gardé vraiment les deux, parce qu'après, effectivement, ça dépend vraiment de l'échelle à laquelle on travaille. Mais à chaque fois, j'avais gardé, parce que j'avais une base de données et une base, le siège géographique. Et c'est vrai que j'avais gardé à la fois une échelle de temps par siècle. Et vu que ça, en général, on arrive à obtenir, mais pour avoir également, quand on a des précisions sur les dates, une sous-période, entre guillemets, de justement avec des dates plus précises, mais à chaque fois avec un TPQ et un TAQ.
En numérique, il y en a un qui est plus ou moins compris dans l'autre, parce que si on a des dates précises, on peut très facilement les rapporter à un siècle.
Voilà,
mais justement, c'est vrai que c'est très discutable de ce que j'ai fait, mais ça permet de travailler, comme j'ai dit, ça dépend de l'échelle à laquelle on travaille. Mais souvent, on n'a pas de date précise, et c'est ça le problème. C'est que surtout pour les périodes antiques, ou même. même avant les périodes proto-historiques. Et moi, c'est vraiment la seule solution que j'ai trouvée.
Et puis même si on ne prend qu'une seule source, c'est n'est pas toujours la même,
les mêmes types de choses.
Mais quand tu dis à l'échelle du siècle, c'est à l'échelle de 100 ans ou c'est par rapport à des siècles? Parce que est-ce que c'est de 1401 à 1500, ça fait 100 ans, et ça c'est le 15e siècle. Ou alors est-ce que c'est de 1358 à 1457, ça c'est 100 ans aussi.
C'est vrai que pour les siècles c'était genre 14e, 15e, 16e.
Même à l'échelle d'une
date
ville,
de création, date d'abandon, temps d'occupation. Enfin, les chronologies d'occupation. C'est-à-dire qu'on peut renseigner seulement un des trois, les trois, ou aucun des trois.
Est-ce que la chronologie d'occupation est strictement égale à...
Oui, à la soustraction
de la date de fin et la date de début. Parce que ça, c'est pas... Alors, pour le coup, en cas, c'est un truc qu'on rencontre souvent, c'est une période très ancienne. C'est qu'on va dire tel siècle, mais on sait très bien qu'un habitat, ça tombe, il aura vécu 25 ans.
Ça, on ne prend pas en compte. La durée d'occupation dans le siècle, si on choisit un siècle.
Tu l'as déduit de.
Ben, si on n'a pas les informations de date de création, de date d'abandon, on choisit un siècle. Un des trois donne une information sur son occupation. Si on n'a que l'occupation générale sur la 14e, ça l'habite à 14e. Si on a 1352, 1368, on a le 14e aussi par déduction.
S'il y a la durée d'occupation, c'est ça, durée d'occupation?
Non, j'ai pas la durée, on l'obtient par la date de création, date d'abandon, c'est si on l'a de manière certaine ou même si on l'a de manière moins floue, c'est-à-dire 14e, création 14e, abandon 15e, on a une occupation qui va être 14-15e, voilà.
On n'est pas dans la déduction de
l'autre entité, ça peut être le même mur mais il va avoir une autre datation puisqu'il va changer d'entité.
C'est une datation trois niveaux finalement, numérique, le siècle et la période.
Tout est numérique, c'est le même thésaurus chronologique derrière en fait. On a fait tout un grand fichier de chronologique qui va du. Alors on ne va pas à l'année, je ne suis pas descendu à l'année. Quoi.
Mais quel est le point de fondation? Pas uniquement au siècle?
Oui.
Même pas sur 50 ans, parce que
je me rends compte qu'on a peut-être raté une échelle, mais auquel cas c'est pas très grave, on rajoute. Monsieur Excel va nous faire une belle liste en 50 ans, et puis on va rajouter un identifiant à chacune de. Ouais.
Voilà, je trouve que.
Mais on est encore sur le théorique, moi j'ai pas encore mis ça en place, donc c'est pour ça que je.
Je me suis interrogée sur des choses comme ça pour des dates très hétérogènes. Et datation c'est 14, et puis très peu de datation céramique sur des chronologies très floues en rural. Et finalement, j'ai utilisé la datation à l'année, parce que qui peut plus. Enfin, 14e siècle, quand j'avais une datation 14e, 16e par la céramique, ben j'ai mis 1301, 1600, quoi. Et parce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux préciser là-dedans? Si je dis c'est plutôt deuxième moitié 16e, à ce moment-là, si ça s'arrête avant la deuxième moitié 16e, je mets 1550. Mais
moi, ce qui me gêne, c'est la datation à l'année, c'est que malheureusement, derrière, on a une interprétation suivant les personnes qui vont consulter la base. On ne met pas attention, si ce n'est pas 1301, ça va rester. C'est ça le problème, c'est que derrière, le but, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour ma chef, c'est justement pour tous les agents, pour que quand ils consultent la base, ils aient rapidement une information. Si on leur met des dates en dur, déjà qu'on met un point sur le SIG, quand on veut dire un espace plus large, on met un point, ils répercutent le X, le Y et le Z. Le forum, il est là, 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 le for intervention, donc des fois j'ai des points qui sont en dehors de l'intervention, c'est assez compliqué. Donc si en plus je mets des dates certaines derrière.
Je comprends.
Parce que c'est le problème de l'année. Quoi.
Je comprends tout à fait, mais pour réfléchir sur, sur la vie, je trouve que le siècle, pour les villes antiques, réfléchir sur 21 unités, c'est trop faible, je trouve, pour arriver à saisir les transformations de 100 ans. C'est énorme.
Absolument.
Juste pour revenir à Aix, par rapport à votre question de la question, est-ce que vous avez, parce que là, vous enregistrez donc une opération, etc., c'est juste sous forme de points. Il n'y a pas, par exemple, vous enregistrez comme les murs.
Non, sur les CG, je ne le fais pas encore.
D'accord.
Voilà, je le fais moi sur AutoCAD, mais pas. Donc j'ai deux versions, j'ai une version dessin manuel, on va dire, pour les rapports et autres, donc c'est du pierre à pierre ou autre, et puis je refais une version SIG bâton, quoi, donc surfacique en ligne ou en point.
Non, parce que du coup, il y a une cohérence entre là, pour le coup, l'échelle spatiale et puis l'échelle chronologique. C'est qu'on est allé au niveau de la ville avec un enregistrement sous forme ponctuelle pour pouvoir enregistrer les éléments, et derrière, une datation qui a une résolution qui. Donc ça, c'est cohérent.
Oui, pour l'instant, voilà, c'est pour ça que pour l'instant, on s'en sort avec ce qu'on a. Mais c'est vrai que si on veut rentrer, j'ai pas encore fait, par exemple. Et le problème, c'est que aussi, on s'attache énormément sur de l'antique, puisqu'on part de la CAG, et c'est peut-être un peu le problème. Il faut à chaque fois qu'on travaille prendre du recul par rapport à ça, puisqu'on ne travaille que sur la CAG, mais on sait que a posteriori, on travaillera sur le médiéval et encore pire, j'ai envie de dire, sur tout ce qui est proto et préhistoire. Bon, heureusement, Aix, on en a pas beaucoup. Mais parce que là, ça sera encore à votre échelle, mais c'est voilà, j'ai pas là, on sort de tout, de tout ce qu'on peut avoir. Mais et donc, en effet, sur le médiéval, on va avoir une précision, voilà, à l'année, oui, c'est sûr. Pour l'antique, je trouve qu'on arrive quand même. Bon, c'est vrai qu'en demi-siècle, on pourrait peut-être quand même faire du demi-siècle, mais. Oui. Bon, après on a des règles aussi, quoi. Donc on travaille sur les règles aussi. Donc,
pour toi, c'est quoi l'impact des règles sur l'urbain?
Ah ben, mais aucun, comme un siècle.
Ouais.
C'est commode.
Moi, je suis pas tout d'accord avec ce tableau.
Vas-y.
Ah bah non, mais sur les le fait qu'il y ait forcément une relation entre une échelle de représentation, une définition, une granularité du temps.
Ce
que je disais tout à l'heure, je trouve que 14e siècle pour décrire des éléments constitutifs, c'est beaucoup trop. Enfin, si on décrit tous les éléments constitutifs comme ça, et en mettant des fourchettes de siècles ou des ensembles de siècles pour des objets urbains, on dit plus grand chose sur les rythmes, sur les dynamiques. Hein. On passe à côté de beaucoup de choses et les choses apparaissent beaucoup plus statiques qu'elles le sont réellement. Mais c'est pas. Il y a une question que j'aimerais bien, parce que j'ai un peu d'état d'âme avec ça, j'aimerais bien vous faire passer. À propos de du temps, il y a une autre façon, parce que là on est parti sur des temps qui sont des temps très quantitatifs, avec des dates ou des périodes, mais il y a aussi le temps qualitatif qui est fondamental en archéologie. Je me suis toujours dit que c'était quelque chose peut-être à intégrer, donc des relations. Hein. Ça, c'est avant ça. Des histoires de filiation, d'héritage, ouais. C'est des relations en fait. Alors c'est pas des relations stratigraphiques, là, c'est des relations chronologiques entre certains objets. Est-ce que certains d'entre vous ont pensé à intégrer ça? J'y ai pensé sans jamais vraiment
ce principe de fiche, justement, d'entité, nous les relations se font comme ça. Donc j'ai ma fiche d'entité, je vais rajouter une entité, et en rajoutant l'entité, je rajoute la relation. Donc c'est absorbe, c'est détruit, c'est. Voilà. En fait, une entité peut absorber une autre entité tout en la conservant, ou va la détruire. Donc va devenir une autre entité puisqu'elle va l'intégrer, en fait. Donc, à chaque fois, mes relations entre entités correspondent. Donc, pour l'instant, j'ai un thésaurus d'une dizaine d'entrées à peine. Donc, c'est voilà, absorbe, intègre, détruit, comment dire. Pas mince, comme ça.
recouvre.
Oui, voilà, recouvre, enfin ce principe-là.
Fonctionne avec
pour des fonctionne avec pour des fours, par exemple, ouais. Bah, nous, ou autres. Enfin oui, oui, tout ça, on intègre la relation entre les entités, en fait.
Parce que dans le modèle, en fait, on s'en sortait un peu, dans la mesure où on peut toujours faire des requêtes pour savoir ce qui était là avant, ce qui était.
Exactement.
On peut avoir tous les objets qui étaient là avant, mais on l'a pas. Enfin, c'est une information qu'on peut récupérer. Vu comment c'est construit, mais qu'on rentre pas directement, quoi. Enfin, peut-être que c'est pas la peine puisqu'on peut la retirer, sauf que c'est difficile de travailler dessus quand même, sur ces effets d'héritage, enfin, quand on cherche à analyser après le passage de l'un à l'autre, est-ce que d'un objet on en a plein ou est-ce que on a des fractionnements qui partent dans tous les sens, ça on n'a pas, enfin comme des arbres en fait.
Oui, mais enfin nous, moi j'étais parti
sur le principe d'objet, hein.
Moi j'étais parti sur le principe du diagramme, enfin
ouais, bah, voilà, c'est ça, oui.
C'est une US qui est composée d'un fait ou le fait qui se compose de tel, de tel ou tel autre ou qui voilà, donc c'était parti. Et en fait dans le SIG, vu que nous on a toute notre base également stratigraphique dans le SIG, ben j'ai repris les mêmes modules en fait tout simplement de notre base pour construire ce principe d'entité, de fiche d'entité en fait qui correspond plus ou moins à des fiches de faits copiées, mais voilà, avec différentes choses à l'intérieur, mais avec ces possibilités d'intégrer à l'intérieur d'autres entités qui deviennent une nouvelle entité, quoi. Deux entités peuvent former une nouvelle entité. Donc et avec ces relations entre chaque. Mais pour l'instant j'ai une petite piste qui était faite de manière voilà, on a juste réfléchi. Assez rapidement, mais oui, on intègre ça en tout cas. Ça me paraissait intéressant d'avoir ces informations-là pour bon, on a des villas qui sont des voies voilà, qui sont réutilisées ou qui sont absorbées ou voilà. Et pareil pour tout ce qui était enfin au Moyen-Âge, tout ce qui était les aménagements domestiques ou autres, il fallait avoir des informations concernant ce qui fonctionnait avec. Oui, en effet.
Mais on travaille à quelle échelle du coup, mettons si
ça dépend.
Oui, mais voilà, c'est parce que là, sinon,
moi, c'est bien pour ce qui est sur la d'échelle, j'avoue, j'ai pas du tout très peu réfléchi à part à des échelles de représentation graphique.
Mais ça arrive aussi.
Voilà, c'est moi souvent c'était surtout réfléchi à ça en fait, c'est à quel partie de. Enfin, à un moment donné, c'est suivant mes échelles, si je suis au 5000e, au 10000e, au 15000e ou au 25000e, c'est ces représentations-là qui vont changer de surfacique à ponctuelle ou autre. Mais c'est vrai qu'après, par ces relations entre entités, j'ai pas réfléchi à partir de quand ou comment je vais les faire apparaître dans mon analyse.
Ça, je ouais, parce comment ça se traduit là
ouais, parce que là, justement, quand tu dis, voilà, mon four il fonctionne avec. Tu vas jusqu'où? Est-ce que ton four il fonctionne avec juste bah, la pièce, admettons voilà c'est le four juste de la pièce, ou alors si c'est un four de côté, est-ce que ça va vraiment jusqu'au bâtiment, donc au quartier, ou alors c'est pour ça c'est juste la finesse va en fait.
Le plus peu le moins, donc vous voyez, il faut essayer d'avoir le maximum d'informations, mais après, je sais pas, j'ai pas encore. Je suis dans un
flou.
Je sais pas.
Parce qu'après, au bout d'un moment, je pense que ça commence à devenir assez compliqué. Ou alors, c'est.
Moi, il y a beaucoup de questions.
Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment après à représenter, ou alors, parce qu'en général, ça, on a dans des bases de données, quand on enregistre dans les bases de données, on a, bah voilà, c'est justement, bah, c'est la relation stratigraphique.
Oui, enfin après ça va dépendre. Oui, c'est là pour le four, ça serait par rapport à la maison, enfin, par rapport à l'habitat, et puis on va représenter tout ce qui va concerner l'habitat. Mais c'est sûr que pour moi, à une échelle plus haute, à ce moment-là, on arrête
cette
représentation là, quoi.
C'est vraiment assez fin.
À l'échelle du site, finalement, ça peut avoir un intérêt. Par contre, quand tu sors.
Ah oui, c'est à l'échelle du site, ça c'est sûr, quoi, ou de l'îlot maximum, quoi.
D'accord.
Maximum.
Et c'est une des vertus d'être le problématique de penser à l'échelle de la vie.
Oui.
À ce moment-là, du coup, on parle de quelque chose qui est très abstrait, très simplifié, et qui permet de travailler beaucoup sur la question de l'héritage de rupture. Ça, c'est vraiment.
Alexandra.
Oui, je voulais poser une demande pré-café général organisative.
Ah.
Je veux dire. parce que sinon à la fin vous partez tout rapidement et tout ça. Est-il possible d'avoir une liste de tous les participants avec les noms, les adresses et encore plus les PowerPoints, parce que je crois que ce sont des PowerPoints courts. Je ne crois pas que quelqu'un a quelque chose de super secret. Parce que pour moi, ça serait intéressant de mettre en connexion les noms de la personne avec les travaux.
Ok, on préparera ça. Donc, soit bon, quand vous partez, vous pouvez le laisser, soit si on n'a pas le temps, vous l'enverrez.
En sous-trop-box ou quelque chose comme ça.
Oui.
Bon, je trouve que ça serait intéressant pour se rappeler ou pour savoir les schémas.
Elle va venir avec peut-être. Bon, on va voir.
C'est avec Nicolas Messon.
Oui, ça serait dommage. C'est très bizarre.
Non, c'est très bon.
C'est
très bon. C'est très bon. C'est très bon.
Ok, quoi passe
ici, si c'est bon. Sauf pour
moi, je vais faire passer parce que
tu... D'accord.
Est-ce que ça renseigne
l'ensemble
Oui, mais je voulais dire surtout pour les PowerPoint. Parce qu'après, il nous dit il faut que je demande à chacun. Si on le fait public, alors on peut dire.
D'accord.
Ah oui, d'accord.
J'avais pas vu que c'était très calme.
On mettra ça sur quoi?
Et dedans, on est
le
on drop box.
Des fois, c'est des trucs comme ça.
Hein? On n'a pas le droit.
Du coup, j'essaie de mettre ça.
Non.
Mais
pourquoi
on n'a pas le droit sur nos systèmes académiques d'utiliser Google Dropbox parce que c'est dans l'image et que les données ne t'appartiennent plus, tu ne sais pas ce
que là, je
donc les données produites dans un cas scientifique appartiennent
à bon, vous pouvez faire un site avec tout, de par rapport à votre bêtise.
On pourrait me renvoyer ce qu'on a mis sur PowerPoint pour qu'on les
consigne.
Je vais mettre les noms de.
Ça sert à rien.
Savoir qui fait quoi.
Après, vous l'avez fait passer par le serveur consulat de l'université.
Cette opération est
disponible. Non, il est peut-être en ligne.
C'est que je sais que
c'est très
important.
Il y a 8 caractères. Voilà. I could, still in the making, but I could use my website to put everything on.
C'est toujours le même principe.
Yes, what I showed yesterday, we were developing it, but it can also, on our, yes, well, links, but also downloadable stuff, like PDFs or
GPT.
Do you want to put the PowerPoint from there?
On vous a emmené sur des terrains de questionnement de modélisation, mais par rapport à vous, à votre quotidien, si vous avez des questions spécifiques sur cette chose-là, c'est le moment de les mettre sur la table, hein, qu'on puisse échanger.
Ah oui, parce que moi, j'ai joué le jeu, j'ai mis les miens. Hein,
pour la chronologie, c'est vrai que moi, j'ai un peu tout fait en absolu, donc avec les dates que j'avais, donc, là, c'est attribué pareil, enfin, comme c'est daté en archéologie, c'est-à-dire on est donné. Et imbriqué dans un thésaurus. Dans un thésaurus chronologique qui est hiérarchisé. Mais du coup, je ne sais pas trop comment gérer quand je sais juste que telle structure apparaît après une structure qui est datée, avant une autre qui est datée, mais je ne sais pas date. Parce que je ne vais pas mettre 150, parce que je sais que c'est après 100 et avant 200. En fait, là, c'est encore pire que 101 pour le début du deuxième siècle. Donc ça, c'est un peu ennuyeux et je ne sais pas comment on peut faire une relation de chronologie relative dans le SIG.
Eh oui,
ça, je ne sais pas du tout le faire techniquement.
information they want to share. We still have to sort of figure out the structure.
Donc c'est pour ça pour l'instant j'ai fait tout en période et dans ce thésaurus de chronologie j'ai inclus les chronologies aussi qui sont datées par un archéologue qui a fait sa propre chronologie où il dit ça c'est l'horizon 1, l'horizon 1B et ça va de telle période à telle période. On peut refaire un tableau, enfin dans le tableau que je montrais hier, il y a la chronologie absolue normale, haut empire, bas empire et puis les règnes et tout ça. Mais Michel Morgin, il dit l'horizon 1B, c'est de Auguste à Claude, voilà, et il y a des choses qui datent que comme ça. Donc j'ai remis ça dans le tableau pour que ça se. Dans la géodatabase, ça réponde quand j'appelle tel règne, ça répond aussi avec l'horizon 1A.
Ces horizons, ça correspond à des phases reconnues dans l'évolution de la
chronologie. C'est son interprétation d'archéologue, c'est-à-dire il a fait, c'est sa cohérence chronologique, voilà, mais que je peux pas remettre en question, je peux pas reprendre tout son truc. Donc lui, il a fouillé, il dit ça, c'est un horizon qui va de là à là, et qui correspond pas forcément toujours à un siècle, voilà. Et ça, on a vu ça, donc, sur des fouilles anciennes. Donc, il faut qu'en interrogeant, ça puisse apparaître sur les siècles qui sont concernés.
Moi, ce que j'avais fait avec mon corpus de données, parce que j'avais tout enregistré à l'année, alors c'est pas du tout satisfaisant, mais bon, c'est quand même comme ça que j'avais fonctionné, j'avais mis les datations les plus larges possibles. Donc, par exemple, là, dans le premier exemple, j'aurais mis que ça commençait en 100, même 6. En fait, je sais que c'est dans la fourchette 100-200 que ça fonctionne. J'ai pas coupé la pointe en deux, j'ai mis le max. Quitte à ce que certains objets, dont je sais très bien qu'ils n'ont pas fonctionné ensemble, eh bien, si je fais une requête à un moment donné, que j'ai trop de choses qui existent en même temps, alors mais dans la requête, donc je vais avoir une erreur, parce que je sais que tout fonctionne pas ensemble. L'idée, c'était de pouvoir, en fait, pointer tous ces problèmes et pouvoir faire des choix après. Alors, c'est pas très satisfaisant, surtout. Alors, si on fait des requêtes à tenter, on va avoir des choses qui superposent et là, on va être obligé de faire le tri et dire bon bah non, ça, vraisemblablement, ça n'existait pas parce que voilà. Mais où c'est un vrai piège, c'est quand on fait des requêtes sur les données. Qui sont pas spatiales, mais juste sur les tableaux d'attributs, parce que là on voit pas, contrairement à quand on génère la carte, on voit pas qu'il y a des superpositions ou des problèmes de chevauchement, et on va analyser finalement trop de, enfin, en même temps des données qui n'existent pas ensemble. Je sais pas si c'était très clair, Sophie. Donc c'est pas satisfaisant, mais en tout cas c'est comme ça que j'avais fonctionné.
Mais c'est vrai que je pense que raisonner sur les histoires de chronologie relative et arriver à les intégrer, ça pourrait être un moyen effectivement de et puis d'étendre petit à petit, parce que quand on part de la fouille, admettons, et puis après on étend, essayer de voir les relations, parce qu'il y aura forcément des dates qui puissent être communes, et étendre, ça pourrait peut-être être un moyen de, par contre, comment le gérer, travailler de dos. Je pense effectivement peut-être que parce que finalement on part du terrain sur une chronologie relative et on la quitte assez rapidement, cette chronologie relative, et c'est quand même à mon sens un bon outil pour essayer de percevoir un certain nombre de choses, de relations fonctionnelles entre des éléments, et peut-être qu'il faut qu'on arrive à la reporter pour toujours, pour ces histoires d'uniformisation, de standardisation, de mettre en commun des choses. Et on réinjecte peut-être la datation trop tôt dans nos corpus. Alors, je ne sais pas, c'est une question que je pose.
Voilà, il faudrait faire un retour. Si tu sais que ça n'a pas fonctionné ensemble, c'est que c'est par exemple pour des choses un peu distantes, c'est pas des recoupements stratigraphiques. Enfin, ça peut être pour deux éléments qui se recoupent, qui se touchent, quoi. Ou bien c'est par déduction à l'intérieur d'un quartier, tu sais que ça n'a pas pu fonctionner avec.
Non, mais là, c'est vraiment. Il y avait des superpositions. On n'arrive pas à. La chronologie relative ne permet pas de vraiment d'établir de lien entre deux choses. Et quand on regarde les datations, on s'aperçoit qu'il y a, dans les durées de fonctionnement, un recouvrement entre les deux objets. Pourtant, on sait qu'ils n'ont pas existé en même temps. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être. il y a, je sais pas, le château qui est à tel endroit, et on sait qu'après il est reconstruit à tel autre endroit, et on a des durées, et on sait pas à quel moment se passe les deux. On sait qu'il n'y a jamais eu deux châteaux en même temps, voilà, par exemple. Bah là, en fait, moi dans le système que j'ai fait, il y a les deux châteaux qui apparaissent en même temps, et il faut que je fasse. Ça pointe le. Après, dans l'interprétation de la carte, pointe le doigt, enfin, ça pointe le fait que c'est pas possible. Donc il faut trouver, et faut faire ce choix. Par contre, je disais, le risque, c'est quand on ne visualise pas sous la forme d'une carte ça, on n'y pense pas forcément, et on va faire des analyses, par exemple temporelles, où on fait apparaître deux châteaux à un moment, alors qu'il y en a qu'un. Donc c'est...
Là, ça va, parce que c'est toi qui l'utilises, et tu sais qu'il y a pas de
châteaux. C'est dans ça que moi, quand les gens
comparatifs,
comme là, par exemple, on vous a dit, là, on essaie de travailler sur un prototype pour automatiser un petit peu les choses du modèle, et travailler sur un jeu de données. Donc, les gens qui travaillent avec l'or m'ont demandé à ce que je donne mon jeu de données, ma géodatabase. Je dis, c'est pas que j'ai peur qu'on l'utilise. Si, c'est que j'ai peur qu'on l'utilise.
Oui, on n'apprend pas une analyse scientifique.
Et les deux châteaux, sachant qu'ils n'ont pas plus de contemporain, est-ce que ça peut t'amener à revoir tes fourchettes chronologiques?
Mais c'est ça l'idée, c'est de pouvoir. Peut-être, parce que j'en avais pas forcément conscience, mais en les faisant, en générant une carte et en faisant apparaître les deux en même temps, je vais dire bah non, et puis je vais essayer de réfléchir davantage, de proposer une hypothèse, et peut-être d'affiner les datations pour essayer de faire tenir tout ça dans un continuum d'espace-temps parfait.
C'est aussi préférable d'avoir un choix, de manière à faire en sorte que les deux ne bougent pas.
Par exemple, moi je sais que toi tu dois avoir le même problème à Lydia, on travaille sur du temps là, nous c'est pas du temps long, c'est du temps court, voire même très court. Donc
ça, c'est le point qui me parle.
Oui,
les géographes trouvent que c'est du temps très long.
100 ans, c'est. Oui.
60 ans, c'est déjà du temps long.
Oui, non mais.
Ça dépend quel géographe. C'est un géophysique ou autre chose.
Ah, oui. C'est vrai que du coup, moi, c'est vrai que je suis obligé de faire ce choix-là aussi de temps. Puis en plus, des fois, c'est vrai, alors on est vers 50, 30 avant. Puis l'autre bâtiment, c'est vers 40, 20, alors qu'effectivement, ils se superposent. Donc,
en plus, ouais, des fois, ça touche des choses fondamentales. S'il y a des histoires de redéfinition de l'espace urbain, de conquête, tout ça, ça peut changer complètement les interprétations au final. Donc,
Et sur la diachronie, ça pose aussi des questions de traitement partiel différents entre des périodes antiques proto-historiques où on va être sur des pas chronologiques qui pour moi me paraissent longs, alors que plus on va se rapprocher par exemple d'une fin de Moyen-Âge où on a de l'événementiel, je dirais pas parfois heure par heure, mais si, par exemple en temps de guerre, puisque je suis en plein dedans, en temps de guerre, parfois ça se joue, même sur l'espace urbain, ça peut se jouer entre une destruction d'une tour, d'une porte, etc. On peut avoir quelque chose de très calé. Et c'est ce différentiel aussi de la gestion temporelle qui est difficile à jouer dans la diachronie. Je trouve. Parce que quel pas, dans ce cas-là, vaut pour l'ensemble?
Il n'y a pas de pas.
Il n'y a pas de pas qui vaut pour l'ensemble. Mais entre justement le singulier propre à chaque effet source, donc à chaque période, comment jouer ça sur l'intégralité d'une perception sur la longue durée.
Ça touche pas tout à fait les questions, enfin,
non.
Les questions des chefs, mais je pense aussi, quand on a les sources qui mentionnent l'existence de quelque chose, par exemple, ça nous dit, voilà, il s'est passé quelque chose à côté de l'église Saint-Hilaire. Mais l'église Saint-Hilaire, on n'en entend jamais parler avant, jamais après. Et ça n'a pas l'air d'être quelque chose de vraiment neuf dans le document.
Donc on se dit,
qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est mentionné une fois, on ne le sait jamais avant. Et ça n'a pas de profondeur, alors qu'on sait que c'est une durée d'utilisation. C'est mentionné une fois.
Mais ça, c'est dans ton discours. Enfin, après, tu l'utilises dans ton discours, au moment de ton interprétation, tu réinjectes cette connaissance-là. Je pense que je ne suis pas sûre que dans un système, si on parle de système, d'un système, quel qu'il soit, il faut tout enregistrer. T'as des éléments, tu sais que ça va te servir pour après ton interprétation, tout ça.
Oui, mais si je travaille pas, par exemple, si c'est un texte du 15e siècle, si je travaille sur le 15e siècle et les églises au 15e siècle, j'ai besoin d'avoir une carte, c'est trop dommage de ne pas l'avoir dans le système si j'interroge, tu vois.
Tu fais quoi? Tu dis, j'ai une église qui se balade à l'église de ma ville.
Ça peut être intéressant de savoir le nombre d'églises que tu connais.
Mais c'est bien ça, c'est que tu la réinjectes dans ton discours, je te dis pas de ne pas en faire état.
Mais...
C'est ballot, si on sait où elle est.
Dans ton exemple, tu dis que tu ne sais pas où elle est, c'est juste qu'elle apparaît, elle est mentionnée dans une source et que tu n'entends pas du tout parler.
Je vais choisir
un autre exemple. Non, mais c'est pas possible qu'elle arrive à une seule date, mais qu'on sache quand même où elle est.
Oui, mais là,
ça ne sait pas où elle est. C'est même souvent le cas.
Alors, bon, c'est un échelle temporel, enfin, je ne pense pas qu'il y ait d'uniformisation possible, ni l'échelle, ni du coup des
trucs. Oui, d'accord, mais dans la conception de ton siège, quand tu le penses sur la diachronie. Donc tu vas t'arrêter sur un critère de temporalité, ne serait-ce que sur la façon dont tu indiques le temps. Si par exemple le choix d'une date absolue ou pas, ou de pas par siècle, et ça vaut pour toute.
Oui, on est obligé d'avoir un système.
Exactement, qui uniformise sur la longue durée. Et ça, ça pose une question.
Oui, voilà. Mais il faut trouver un système quand même qui soit.
Absolument.
C'est vrai que ça, le système c'est neutre, c'est c'est l'année et encore.
Bah oui, et encore. Quelquefois l'année, elle est même, elle fonctionne même pas, quoi.
C'est enfin un paquet d'années quand même.
Je te dis, elle fonctionne pas.
Si tu prends un ultra contemporain, si t'es en diachronie qui remonte jusqu'au 21e siècle, quelquefois l'année, c'est trop grand, quoi.
C'est le jour.
C'est le mois ou le 6 mois, enfin. Ça va nous dire un pas. Imaginons que tu mettes en place les écoles de la Troisième République. Je dis ça parce que nous, on s'est posé la question d'intégrer pousser les atlas jusqu'à la Troisième République, jusqu'au fin 19e, jusqu'au plan d'alignement, très précisément. Parce que les plans d'alignement rajoute des éléments tout à fait pertinents au regard du cadastre. Mais alors, intégrer tout le bâti de la Troisième République, mairie, école, etc., ça se joue à un pas très rapide parfois sur un espace urbain. Tu as 10 écoles qui se construisent sur un espace urbain en 6 mois, en 3 mois. Et ça bouscule l'espace de façon très rapide. Voilà comment on intègre ça, non seulement dans le rendu cartographique, mais aussi dans le site, dans la chronologie,
dans un basculement enfin, un peu structurel de la ville qui va justement se doter de cet équipement-là, que ce soit sur 3 mois ou 1 an, ça ne fait pas tant de différence. Après, si tu veux voir au niveau prototographique, la personne qui a diffusé, le moment où elle est dans la ville, où elle vient...
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de jouer perpétuellement le regard entre la diachronie et la synchronie, donc à l'échelle de la synchronie.
Parce que là, en fait, je me demande si ce n'est pas des effets d'accélération qu'on observe uniquement par les sources. À travers les sources, c'est un effet de source. Parce que tu ne vois pas qu'un effet de source. Je suis pas sûr qu'on construise beaucoup plus vite des choses au 19e siècle qu'on pouvait le faire au moment où la ville a été fondée. On a loti toute la ville, ça a dû se faire super
vite. Il y a un peu de technique quand même qui fait qu'aujourd'hui tu fais plus facilement. Tu fais un immeuble en 6 mois alors qu'avant tu faisais en.
Et à un moment donné, le réduit comme. Si tu as une échelle chronologique qui est de type archéologique, disons, le pas le plus mince, c'est mettons que sur l'année, puisqu'on parle en siècle, etc. Si tu réduis ça. Ça a une manière de le structuraliser, je trouve.
Oui, oui.
De le tirer du côté de. À un moment donné, la polarisation de la ville change, parce que par exemple, les écoles deviennent des choses fondamentales qui expriment une société moderne. Et à ce moment-là, tu le ralentis un peu par rapport. Si tu veux l'observer à l'échelle de la décision politique, par exemple, un changement de majorité. Là, évidemment, t'es pas à la bonne échelle. Mais sinon, dans une longue durée d'évolution de la ville, si tu le ralentis un peu et t'en fais quelque chose d'un peu plus. Tu le ramènes à l'échelle des autres.
Oui, je comprends. Du coup, tu lui fais perdre cette immédiateté,
Moi, j'ai vu ça pour.
Ça marche sur les bâtiments. Prends par exemple les monuments aux morts. C'est pas rien, les monuments aux morts, dans la structuration de l'espace, dans l'impact sur l'espace, sur la dimension mémoriale. Là, ça se joue à un temps hyper rapide.
C'est pas sûr à voir.
C'est les années, le monument aux morts.
Ça met au moins 20 ans, il y en a bien qui ont dû les construire dans le
temps. Non, c'est vraiment calé sur les années 20-23. En général. Alors après, c'est pas un avion.
Mais moi, j'avais vu ça pour faire des changements dans l'espace rural de type intensification physiocratique.
Oui.
Où je trouvais que le regard archéologique permettait de comprimer des choses qui sinon apparaissent de façon très diluée. Mais du coup, ton seuil de basculement, tu le vois, en le ramenant à l'échelle archéologique, tu vois le basculement. Et sinon, tu es dans une espèce de dilution du phénomène.
Tu comprends ce que tu veux dire.
Où tu performes, hein, quoi. Mais.
Je ne sais pas quelle solution pour le coup.
Pourquoi ? Et.
Le réveillon passe au. Passe à quoi, alors ?
Je vais lancer. Donc, en fonction des missions de chacun, on a donc des questionnements et des attentes qui sont différentes de tout ce qu'on manipule. Donc, maintenant, c'est quels sont les outils ou les méthodes que vous mettez en place pour pourquoi ? Donc, en termes d'analyse, en termes de restitution, en termes de requête, en termes de visualisation. On a pas mal parlé de 3D parce que ça, c'est une question qui va commencer à être récurrente. Voilà, donc là, on peut aborder ces sujets après avoir faire un petit tour de table sur les objets, qu'est-ce qu'on en fait ces objets, et donc le système, la finalité du système, qu'est-ce que...
Peut-être une des premières questions à se poser, c'est savoir si est-ce qu'on peut on a tous des objets d'études, on a vu très différents, des échelles d'études qui sont pas forcément les mêmes, des finalités qui se combinent pour certains pans, mais finalement comment est-ce qu'on peut changer l'interopérabilité, on l'a vu déjà pour les objets d'études, on n'arrive pas forcément à s'accorder. Pour les échelles de temps, ça doit être compliqué aussi selon qu'on s'intéresse au paléolithique inférieur ou bien.
Pour le fait urbain, le paléolithique inférieur, on s'en débarrasse facilement.